Vous écoutez France Musique.
Autant vous le dire tout de suite, la touche glamour, c'est pas son truc, donc oubliez le cliché genre teint de porcelaine et œil d'azur type Coppelia. Les seules touches sur lesquelles elle veut être jugée, ce sont celles de son piano, alors ouvrez grandes vos oreilles et montez le son.
Il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Son arrière-grand-mère a joué devant Tchaïkovski à Moscou, sa mère, elle, elle a chanté dans le chœur de l'Orchestre de Paris. Bref, à 4 ans, la voici au clavier et très vite sa première prof, détectant la perle rare, la confie à Pascal Némirovski, une rencontre déterminante avec celui qui est devenu aujourd'hui son beau-père et fut quasiment son seul mentor, même si elle est passée par le Conservatoire de Paris, travaillant un peu Pierre Réac, Bruno Rigouteau ou Geneviève Joie-Dutilleux. Elle n'a pas 10 ans encore qu'elle donne son premier concert sur France Musique, poursuit ses études par correspondance et se voit vite repérée par la directrice de l'Auditorium du Louvre, Monique Devaux, qui l'engage pour une série de musique de chambre. Manque de peau, ou plutôt cul de chance, elle se casse le bras à la patinoire, et ce sera donc quelques mois plus tard, pour 14 ans, un premier récital à Paris et un premier enregistrement chez Naïf, partagé entre Rachmaninoff et Ravel. Enfin, elle gagne quelques mois plus tard, à New York, le Young Concert Artist qui lui ouvre les portes outre-Atlantique. Le reste, vous l'avez sans doute lu dans toutes les bonnes gazettes musicales, mais sachez quand même qu'elle aime jouer sous la direction de Fabio Luizzi ou de James Conlon, que dans la vie, elle est assez accro au shopping, qu'elle aime le théâtre, les livres, les films de science-fiction et l'art contemporain, auquel elle a été initiée par son grand-père galériste. Bon, vous en savez assez, je crois, alors faites vite une place à notre invité du jour, Lise de la Salle.
Thank you.
Brice de la Salle.
Bonjour.
Alors là, nous écoutions l'opus 39 numéro 1, c'est-à-dire l'extrait des études tableaux de Serge Rachmaninov, votre premier disque enregistré à 14 ans. Un certain Rachmaninov qui va beaucoup occuper votre saison. Ça va commencer avec l'Orchestre de Bretagne et le deuxième, mais après vous alternez, j'ai vu dans le calendrier, premier, deuxième, premier, deuxième.
Exactement, oui, parce que, comme vous venez de le dire, là, on ouvre, j'ouvre la saison avec le deuxième et l'Orchestre de Bretagne, et après, je suis en résidence sur 2 ans, donc saison 13-14 et 14-15, avec l'Orchestre de Zurich, et Fabio Luisi qui m'a invité à faire l'intégrale, en fait, des concertos.
Plus, alors, on les aura tous, alors.
Plus la Rhapsodie Paganini. Donc, cette année, c'est un peu plus premier et deuxième, les variations Paganini, et puis sur la saison prochaine, ça sera plus. 3 et 4.
Bon, ben on verra, on va suivre les deux salles. C'est assez marrant parce que premier disque à 14 ans, comme une certaine Hélène Grimaud, dont le premier disque était lui aussi consacré à Rachmaninov. C'est quoi, c'est l'art des jeunes filles, non? C'est sûr.
Moi, c'était très très clair, c'est que quand on a la chance de pouvoir faire un premier disque, on se pose plein de questions sur le programme, le répertoire et quoi faire. Évidemment, Rachmaninov, c'était une évidence pour moi parce que déjà c'est une des œuvres que j'avais énormément jouées, enfin énormément, ce qu'on peut appeler énormément à 14 ans, c'est-à-dire beaucoup jouer, et c'était important de faire quelque chose qui avait déjà un petit peu de maturité, donc un peu de sens à l'époque. Et puis Ravel aussi, c'était le même cas. Moi, j'ai commencé à étudier la sonatine de Ravel à 9 ans. Donc, c'est vrai qu'il y avait, quand même un petit bagage et un petit vécu. Et en plus, il se trouve que, étant moitié française et moitié russe, il y avait une symbolique sympa pour un premier disque de se présenter musicalement en tant que jeune personne aussi, avec ses origines et son bagage culturel.
Mais l'arrière-grand-mère pianiste à Moscou, vous ne l'avez pas connue quand même?
Non, en fait, c'est arrière-arrière. C'était la grand-mère de ma grand-mère. Sinon,
oui, ça fait loin, donc.
Oui, ça fait loin.
C'est pour ça qu'elle a joué devant Tchaïkovski,
voilà.
Du coup.
Oui, non, je ne l'ai pas connue, mais j'en ai entendu parler. C'est une légende familiale dont on ne connaît pas plus de détails, mais c'est vrai que ça fait rêver quand on est gamin, de se dire que quelqu'un de sa famille lointaine a pu connaître un tel génie.
Et elle était renommée en son temps?
Paraît-il.
Après, il n'y a pas d'archives familiales.
Voilà. En tout cas, elle côtoyait le milieu musical russe et elle était dans ce monde-là. Donc, je ne sais pas après où est-ce que ses talents de concertiste commençaient et s'arrêtaient. Mais en tout cas, elle aimait la musique et elle côtoyait les gens du milieu musical. Et elle a transmis ça à sa fille et à sa petite fille, qui était ma grand-mère. Enfin, qui est toujours d'ailleurs, bien sûr, ma grand-mère.
Bah oui,
qui l'a transmis.
Merci.
Qui l'a également transmis à ma mère, qui me l'a transmis, enfin bon bref. Tout ça s'est transmis et c'est vrai que l'amour de la musique est très fort dans la famille depuis très longtemps, donc on n'y échappe pas.
Et maman, elle a chanté dans le chœur de l'Orchestre de Paris, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu assister très très jeune à des concerts exceptionnels comme la Missa Solemnis de Beethoven avec Solti, ou j'ai vu Giulini, enfin j'ai vu des monstres sacrés étant gamine, et ça fait rêver, et ça... En plus, le chant, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui ça occupe une place importante dans ma vie, mais j'ai pas été façonnée ni programmée à faire du piano. Le piano, en fait, l'anecdote veut que ma mère, qui était passionnée de chant, elle m'a fait commencer le piano. J'ai demandé à commencer le piano et elle m'a soutenue, mais elle, dans sa tête, elle avait bien envie que vers 15-16 ans, je bifurque vers le chant. Et puis, bon, non.
J'ai... Trop tard. À 14 ans, c'était fini.
Voilà, c'était fini, mais voilà, j'ai été éduquée avec une très grande ouverture d'instruments, le chant, les orchestres symphoniques, le piano évidemment, mais l'opéra beaucoup, donc ça m'a permis très jeune d'avoir cette ouverture d'esprit musical qui, je crois, est très important quand on grandit après.
Alors pour maman, un peu de Mozart.
Thank you.
Les deux dernières des 12 variations sur, vous dirais-je, Maman du bon Wolfgang Amadeus Mozart, évidemment sous vos doigts, liste de la salle. Là, c'était un disque partagé entre Mozart et Prokofiev. On retourne à la musique russe comme d'habitude. Alors, je vais trahir un tout petit peu des secrets personnels. Dans le civil, on se tutoie. Je vous connais depuis très longtemps, petite, je crois. Et je me souviens de cette petite bande autour de Pascal Lemirovski. Et il y avait une autre pianiste très douée. Et c'est l'inverse de votre vie. Vous avez des parents qui vous ont poussé et tout, et Céline Raphaël l'a écrit récemment dans un livre, elle, c'était l'horreur absolue. Vous vous souvenez de cette période?
Oui, je me souviens, on sait un petit peu, c'est-à-dire que la période où Céline était élève de Pascal, je ne l'ai pas vraiment connue, moi je l'ai connue sur la fin, au moment où elle prenait en main, c'est le cas de le dire, sa vie, et avait commencé à dire que le piano, c'était, elle aimait, mais que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire dans sa vie, donc je n'ai pas connu le quotidien de cette période-là, mais on a fait quelques stages ensemble pendant l'été, et on a créé des liens d'amitié assez forts. On se voit toujours aujourd'hui et c'est vrai qu'elle a évidemment eu une vie bouleversante, très touchante, et surtout c'était quelqu'un qui était si doué au piano que c'est assez troublant comme histoire. Mais aujourd'hui, de la voir épanouie et faire ce qu'elle aime,
elle a voulu être médecin, elle l'est, et elle a repris le piano.
Voilà, elle a repris, et c'est ça qui est beau, c'est d'avoir réussi à reprendre le piano, c'est-à-dire que malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, son amour pour la musique et pour le piano est resté intact, ou en tout cas assez fort pour aujourd'hui lui permettre de revenir spontanément et avec amour vers la musique, et c'est une leçon de vie, et surtout une leçon de courage, et c'est une personne... tout à fait exceptionnel, ça c'est sûr.
Alors vous n'avez pas, Dieu merci, été battue pour aller au piano. Dès 4 ans, vous y allez toute seule. Mais à la fois, on vous accompagne, parce que très vite, vous abandonnez le circuit normal des études, où tout se passe par correspondance. Enfin, faut vraiment que la famille soit derrière.
Oui, bah c'est beaucoup de chance. Et c'est vrai que quand j'ai eu 10 ans, j'étais au conservatoire rue de Madrid, au CNR, et mon professeur de l'époque, c'était Madame Chantal Fraisse, qui m'a eu assez brièvement pendant 2 ans, mais ce sont été 2 ans très, très... exigeante et surtout très enrichissante et déterminante, parce que je suis rentrée au CNR, je jouais une petite sonatine de Mozart ou de Beethoven, enfin vraiment quelque chose de 3 lignes et très simple, et en 2 ans j'attaquais, alors je ne les jouais pas, mais j'attaquais les études de concert de Liszt, Alborada, des miroirs de Ravel, enfin donc elle m'a fait vraiment faire un bond très important, ce qui m'a permis d'avoir toute la suite en fait. On vient toujours de son passé, hein, c'est évident, et à 10 ans elle a dit à ma mère, écoutez voilà, apparemment votre fille aime ça, et en plus elle est très douée. Donc, s'il y avait moyen pour vous de l'accompagner via un enseignement à la maison, par correspondance, à savoir le CNED, ça serait idéal. Et c'est ce qui s'est fait à partir de l'âge de 10 ans jusqu'au baccalauréat. Donc, j'ai quand même fini ma formation scolaire de manière tout à fait normale. Je n'ai pas eu ni les horaires aménagés, ni un bac F11 musique. Non, un bac tout à fait normal. Et aujourd'hui, ça a été dur à gérer parce que... évidemment, ça, c'est très demandant, et de mener de front et la scolarité. Et je me souviens, je suis rentrée pour passer mes épreuves du Japon. En première, j'arrivais du Japon où j'avais fait une tournée, et j'avais les épreuves de maths le lendemain à 8h.
C'est chic.
C'est chic. Et l'année d'après, pour les épreuves de terminale, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire que je rentrais de 4 jours d'enregistrement à Lisbonne, où je venais de finir mon 3e disque, pour être à 8h en épreuve de philo. Donc, c'est des anecdotes super, mais quand on les vit, on ne se rend pas compte que ça sera chic dans 10 ans. On se rend juste compte que c'est très... très fatigant, mais en même temps, le jour où on se rend compte que tout a marché, moi je me souviens, le jour où ma prof de philo, parce que j'ai eu un soutien avec des vrais profs pour la dernière année, et où j'ai eu les résultats, parce qu'elle était allée farfouiller un petit peu dans les papiers en avance, et j'étais à Copenhague, et elle m'a appelée en me disant voilà, t'as le bac. J'étais toute seule dans la rue à Copenhague, et je sautillais, parce que pour moi, c'était presque une pas une plus grande joie, mais disons que c'était beaucoup plus incertain d'avoir un résultat positif au bac que d'avoir un troisième album réussi. Donc les proportions sont différentes et en même temps ça fait des super souvenirs et surtout une base hyper importante aussi dans notre métier, parce que il faut étayer la musique, il faut vraiment essayer en tout cas d'être une personne complète pour avoir une musique le plus complète et le plus nourrie possible. Donc ce sont des beaux souvenirs, mais c'était un vrai challenge.
Et donc à 10 ans, Lise de la Salle, vous décidez de vous y mettre complètement, donc de prendre les études par correspondance, et vous faites votre premier concert sur France Musique.
Thank you.
C'est maman qui crie bravo, Lise de la Salle.
Non, je n'ai pas reconnu sa voix, non.
Donc c'était en juin 98 sur France Musique. Vous aviez joué d'autres choses d'ailleurs dans cette émission, c'était du Ravel notamment. Là, on écoutait le final de La Pathétique, et si on ferme les yeux, on pourrait imaginer que c'est un vieux pianiste allemand, un vieux sage, genre, c'est un bout de chou de 10 ans qui joue ça.
Oui, c'est marrant.
En tout cas, pas le track, je m'en souviens.
Mais c'est ça qu'il y a de formidable quand on commence jeune. Et pour moi, c'est vraiment une chance, c'est qu'on ne se rend pas compte de tout. Donc on acquiert les réflexes d'être sur scène et la sensation d'être sur scène sans avoir le temps de se dire « Oh mon Dieu, il y a un tel qui écoute. En fait, la radio, ça veut dire qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vont l'entendre. » Et ça, on le percute pas quand on est si jeune. Et c'est merveilleux parce qu'après... Évidemment, la conscience vient, mais on a déjà la sensation et le réflexe d'être sur scène. Donc c'est une grande chance.
Alors justement, 10 ans, c'est en même temps l'époque où vous changez de professeur, vous quittez Chantal Fraisse pour aller travailler avec Pascal Demirovski. Alors je l'ai débusqué à Londres, pour parler de vous évidemment. Et je lui demandais justement, en tant que pédagogue, qu'est-ce qu'on fait quand on découvre une petite perle rare comme vous à 10 ans?
C'est une joie déjà d'une part, et puis c'est pas si fréquent que cela. Je me souviens, je l'ai rencontrée, elle avait quel âge? Elle avait 10 ans, donc elle était toute petite encore, et je l'ai rencontrée grâce à une amie, je l'ai auditionnée, je lui ai donné une première leçon, et on a essayé de voir si on pouvait s'entendre, etc. Et ça a été une grande rencontre et un privilège. Et je me souviens de cette petite poupée qui avait les yeux bleus, de grands yeux bleus, et très déterminée, avec des yeux interrogatifs, et déjà un sens de l'humour, et une... C'est une très grande rencontre. C'est une des plus belles rencontres de ma vie.
C'est ce qu'elle dit aussi, donc c'est partagé. Alors quand on a un petit diamant comme ça entre les mains, il y a une grosse responsabilité aussi, il ne faut pas abîmer.
Ah, c'est certain, mais vous savez aussi, c'est un... Enfin, j'ai un petit peu l'habitude maintenant, j'ai un petit peu d'expérience. On sent assez rapidement le caractère, en fait. C'est surtout le caractère et la détermination. Et que, je me souviens de Lise, elle était... Souvent, je lui ai posé la question, veux-tu vraiment devenir une pianiste concertiste? Tu sais, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, beaucoup de travail, tu vas être seul souvent. Ça demande des nerfs d'acier. C'est très, très, très difficile. Et, alors donc, moi, je l'ai même fait travailler de façon un petit peu dure pour voir jusqu'où elle pouvait tenir. Et ça a été, c'était à chaque fois une... Oh, mais laissez-moi vous dire une anecdote, par exemple, lorsque l'orchestre d'Avignon, elle devait avoir 12 ans, a appelé et pour demander si elle avait le deuxième concerto de Beethoven dans son répertoire. Et je réponds tout simplement non, elle n'a pas le deuxième concerto de Beethoven, honnêtement. Et le directeur me dit, oh, on ne veut pas prendre de risque, c'est dans 3 mois. Elle n'a pas le deuxième de Beethoven. Écoutez, je rappellerai plus tard pour une autre opportunité. Et en fait, je lui dis, écoutez, je connais bien Lise, est-ce 3 mois, c'est quand même pas, s'il y a quand même un petit délai, est-ce que vous pourriez rappeler demain à la même heure, il était 14h, demain à la même heure. Écoutez, bon, je vous fais confiance, mais je crois que je ne vais pas prendre le risque. J'en parle immédiatement à Lise, je lui donne la partition. Et je lui dis, écoute, il y a une opportunité magnifique. Est-ce que tu as envie de jouer avec un orchestre, surtout que c'est un magnifique orchestre, etc. C'est une chance incroyable à 12 ans, etc. Elle me dit, oh, ben bien sûr, ben, bien évidemment. Et je lui dis, ben, écoute, regarde la partition et puis on fait le point. Il était donc 14h. À 17h, on se voit. Et alors elle me dit, ça y est, je connais le premier mouvement par cœur et au tempo. Alors je lui dis, écoute, c'est parfait. Et le lendemain, à midi, elle connaissait déjà tout le concerto par cœur, au tempo. Donc le directeur, avec beaucoup d'humour, je lui dis, Lise connaît déjà le concerto. Alors elle connaît les notes, bien évidemment, il y a tout le travail derrière à faire d'interprétation et de maturation. Mais ça démontrait déjà à l'époque cette détermination, cette faculté d'apprendre rapidement les textes, et puis cette volonté, cette pugnacité, elle a toujours été faite pour ça, toujours été faite pour ça. Je me souviens aussi d'une autre anecdote, c'était au Young Concert Artist, quand elle a gagné le premier prix, elle devait avoir à l'époque 16 ans, Et le chauffage était tombé en panne. Donc il faisait 14 degrés, le membre du jury était en manteau de fourrure, enfin bon, etc., etc. Et donc elle a passé ce concours, elle est tombée malade 3 jours avant avec une bronchite carabinée et 42 fièvres. Et elle a quand même pu jouer dans des conditions extrêmement difficiles. Et à la suite de cela, Lise vient me voir, elle me dit « qu'est-ce que vous en avez pensé ?» etc. Et alors je lui dis « écoute, t'aurais pu faire un peu mieux. Hein. » et à l'époque, ça a été... Et d'ailleurs, je me suis reproché quelques années plus tard. Je me suis dit « mais pour qui tu te prends, là ?» Cette pauvre gamine qui s'est malade comme un chien, avec une salle froide, etc., pour un concours extrêmement difficile, et je m'en suis voulu. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à Lise à l'époque, et je lui ai demandé de me pardonner si c'était possible.
Redoutable toccata de Serge Prokofiev sous vos doigts, Alice de la Salle. Prokofiev qui est cher aussi et au cœur de Pascal Lemirovski. Alors, il faut quand même rectifier les choses. Ce n'est pas 3 mois que vous aviez pour le deuxième de Beethoven, c'est 3 semaines.
Oui, c'est 3 semaines. C'est pour ça que c'était d'autant plus un vrai challenge, quoi. Et que c'était nécessaire, que dans ma tête, en tout cas, je me souviens très clairement, c'était nécessaire d'avoir le concerto dans la tête en 24 heures, parce que ça me laissait quasiment 3 semaines de travail plein, ce qui était faisable. Mais non, c'était pas 3 mois, bien 3 semaines.
Enfin, chapeau quand même, déjà 24 heures, le connaître par cœur et au tempo, c'est des moyens, et physiques et mentaux, impressionnants.
Ben oui, certainement, mais vous savez, ça c'est C'est, enfin, ça m'a jamais vraiment demandé de réel effort. Enfin, c'est un effort en temps et en concentration, mais disons que c'est un don de pouvoir apprendre comme ça. J'y peux pas grand-chose, en fait. Donc,
c'est malgré vous, oui.
C'est malgré moi, donc j'en suis très contente, mais j'en tire pas une fierté. Voilà, c'est comme ça, et tant mieux, j'ai beaucoup de chance, je me sens très chanceuse d'avoir ce don-là, parce que ça permet de pouvoir dire oui à des défis comme ça, ou de faire des choses un petit peu fofolles, qui sont après des souvenirs dans une carrière assez sympa.
Donc à 10 ans, vous vous jetez dans le métier, à 14 ans, vous êtes déjà une vedette. C'est combien d'heures par jour de piano à cette époque-là ?
À cette époque-là, c'était beaucoup, parce que c'est l'époque où on doit se former vraiment d'un point de vue technique, où il y a tout à apprendre, où il faut asseoir vraiment des bases solides pour toute une vie. Donc vers 14-15 ans, c'était 6-7 heures, parfois plus. Donc,
c'est énorme ?
Oui, c'est énorme. Mais ça, c'était la période la plus intense niveau travail et niveau temps de présence au piano, parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à travailler de manière beaucoup plus efficace. Avec le temps, on arrive à aller plus vite à l'essentiel et plus vite là où on sait qu'on a besoin d'y passer du temps. Donc le travail est plus efficace, donc j'ai besoin de moins d'heures. Et puis surtout, il y a tout un travail qui se fait sans piano, juste avec la musique à la table, que à l'époque je commençais à faire, mais qui était secondaire, alors qu'aujourd'hui il est presque principal, parce que voilà, au piano je sais où je dois aller très vite, je sais quelles sont les difficultés, je sais les objectifs sont très clairs, mais après il y a tout le travail de maturité, enfin de voilà, d'élaboration, de conception, de l'interprétation qui devient primordial et qui devient l'essentiel de la musique et l'essentiel du travail. Donc c'est un petit peu un inversement des choses au fil des ans.
Et je me suis laissé dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à 24 ans, vous pouvez vous permettre le luxe
25
ans, ça y est. Ah oui, on est en 88, on est entre les deux. Vous pouvez vous permettre le luxe de prendre 3 semaines de vacances sans regarder un clavier, c'est
oui,
génial ça.
Oui, ça, je jalouse. Enfin non, pardon, beaucoup de mes collègues me jalousent, parce que c'est quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir imposer, non pas de force, hein, parce que j'en ai discuté avec mon agent qui m'a soutenue toujours dans cette démarche-là. Donc depuis très jeune, enfin très jeune, depuis 19-20 ans, j'ai pu imposer ce luxe de prendre 3 semaines de vacances, et en plus pendant l'été, donc je profite de ça sans piano. Alors ça ne veut pas dire sans musique, parce que la musique est toujours présente, je l'écoute, j'y pense, je l'ai dans ma tête, dans mon cœur, voilà. Mais en tout cas, sans toucher à l'instrument, et c'est génial, parce que je ne perds pas techniquement en 3 semaines. Et en plus, le retour, les retrouvailles sont toujours sympathiques, et on est heureux. Enfin, moi, je suis heureuse de revenir à mon piano, et ça permet d'avoir une vraie décompression. Et je crois que c'est important dans nos métiers de fou.
De fou, tant mieux pour nous. Allez, on continue à feuilleter votre discographie, qui est déjà très importante chez Naïve. Bach maintenant.
Thank you.
Le prélude du prélude et fugue en la mineure de Jean-Sébastien Bach, œuvre pour orgue BW 543, mais transcrite au piano pour Liszt, un gars dont on va reparler un peu plus loin à l'est de la salle, car il vous tient particulièrement à cœur. Vous avez le sentiment d'avoir vécu une enfance normale de petite fille? Vous avez des Barbies?
Non, je détestais ça. Enfin, sur le moment, je me sentais pas anormale. Après, avec le recul, je vois bien que c'était pas une enfance normale, donc je vais pas vous dire oui, c'était normal.
Il y avait des
normal.
Copines,
je oui, j'avais des copines. Je me sentais pas du tout seule ou isolée. Je l'étais un petit peu de fait, mais ça ne me pesait pas. Après, j'avais des amis. J'avais surtout à l'époque ma grand-mère dont j'étais très très proche, avec qui je passais des heures au téléphone et qui était ma meilleure amie et qui m'a beaucoup soutenue et était très importante dans ma vie à ce moment-là. Elle était loin, donc elle était à 1000 km, donc on se parlait. Et évidemment, à Paris, j'avais des amis et ma famille qui m'entouraient, mais je travaillais beaucoup, mais j'étais heureuse. J'étais une petite fille épanouie, donc...
Puis vous le disiez tout à l'heure, vous revenez passer les épreuves du bac, enfin les premières puis les deuxièmes, et vous revenez tourner à l'étranger. Là aussi, c'est une solitude quand on est jeté comme ça à 15-16 ans.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu la chance parce que ma mère, justement, m'a accompagnée pendant toutes mes tournées et tous mes premiers concerts jusqu'à 18 ans. Et ça, c'est une grande chance de pouvoir vivre les premiers concerts comme ça, parce que, évidemment, les premiers concerts, on se pose des questions, on est moins habitué. Puis même se retrouver à 15 ans seul à l'aéroport de New York, ça peut être un tout petit peu un petit peu terrorisant. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'être accompagnée dans toutes ces premières épreuves un peu difficiles par une maman très attentive et qui a suggéré et surtout me donner les moyens de me débrouiller seule après. Et ça, c'est une grande chance. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vraiment eu un parcours privilégié.
Et maintenant, vous êtes une grande liste de la salle, donc vous irez toute seule bientôt à l'Orchestre de Bretagne pour la réouverture de la saison. Donc pour vous, ce sera le deuxième concerto Drachmaninoff, ce sera le 20 à Rennes et le 24 à Quimper au Théâtre de Cornouailles. On va laisser la place à l'ami Nicolas Lafitte qui s'intéresse toujours à ce qu'auraient pu devenir nos invités s'ils n'avaient pas été ce qu'ils sont.
Chère Lise, ma mission dans cette émission est de trouver aux musiciens qui passent à la moulinette de Thierry Beauvert le métier qu'ils auraient pu exercer s'ils n'avaient pas été ce qu'ils sont. Généralement, je sors complètement de l'univers musical, mais là, il y a quelque chose en vous, Lise, à travers votre jeu et à travers les différentes interviews que j'ai pu lire de vous, qui vous rapproche de la voix. Oui, de la voix chantée, Lise de la Salle, star de l'opéra. Ça colle complètement. Alors pour la tessiture, je ne sais pas ce que vous en pensez Thierry, mais je penche plutôt pour une soprano légère, avec des aigus éclatants à en faire pâlir Mado Robin. Une soprano coloratour, l'incroyable agilité. Lise, vous feriez des vocalises virtuoses à nous donner la chair de poule. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec votre charmant minois, vos cheveux blonds et vos yeux bleus, je sais bien que les apparences sont parfois trompeuses, mais j'ai quand même du mal à vous imaginer en basse profonde. En revanche, ce que je vois en vous, Lise, c'est le rôle de l'acmé. Vous nous chanteriez l'air des clochettes. Simon Rattle, l'idole de votre enfance, serait à la baguette avec l'orchestre de l'Opéra de Paris. Olivier Pie, lui-même, aurait concocté une mise en scène philosophico-théologo-cosmico-homocato dans laquelle vous auriez été habillé d'un simple voile. Et pendant cet air des clochettes, tant attendu par tout le public accroché à votre voix, vous ôteriez lentement votre voile en escaladant divinement une immense croix recouverte de sang. Et ce serait évidemment un triomphe. Avec cette lacmé, Lise, vous seriez devenue LA nouvelle étoile de l'opéra. J'imagine déjà la couve d'Opéra Magazine qui aurait imprimé votre photo immense, cheveux dans le vent, regard mystérieux, avec un extrait de votre interview et cette phrase d'accroche « Lacmé, je la sens vivre en moi ». Bon alors, après je ne vous cache pas qu'être chanteuse a ses petits inconvénients quand même. Hein. Il faut éviter alcool et tabac, faire attention au courant d'air, ne pas utiliser l'air conditionné, supporter les délires des metteurs en scène et assumer de porter des costumes parfois ridicules, hein, plusieurs soirs d'affilée devant des milliers de spectateurs. Et le pire, je crois, devoir embrasser des ténors pas toujours très nets et à la laine bien chargée. Lise, après ce petit tour d'horizon, je me demande quand même s'il ne vaut pas mieux rester pianiste. Surtout une pianiste comme vous, intense, mûre, épanouie. Vos doigts sont votre voix, les respirations musicales sont votre souffle. Finalement, tout ça, c'est de la vie. Tout ça, c'est de la musique, non ?
Il a de l'intuition, le petit Nicolas Lafitte, hein, Lise de la Salle, parce que vous parliez du chant, vous.
Oui, c'est assez bluffant, en fait. Hein, parce que, la voix, ça aurait été une passion. Enfin, c'est une passion, mais bon, le piano m'a accaparé plus tôt. Mais c'est vrai que parmi les métiers, on se comprend, qui auraient pu être intéressant et m'attraper au passage plus tard, je pense que la voix aurait été en tête de liste.
Vous avez essayé quand même ? Vous n'avez pas eu le temps de prendre des cours de chant à 8 heures de piano par jour.
Non, j'ai pas du tout essayé. Moi, je chante sous la douche et comme
tout
beaucoup.
Le monde.
Voilà, comme tout le monde. Mais j'écoute énormément de chants et je m'en inspire. La voix est une grande source d'inspiration et surtout dans les respirations, dans la manière de phraser, d'organiser une phrase musicale, parce que on a cette en même temps, grande chance, en même temps, ça peut être très dangereux, au piano de pouvoir enchaîner sans respirer. Et on oublie parfois de juste prendre le temps de poser une respiration. Et c'est pour ça que la voix est un grand modèle d'inspiration, parce que ça me ramène à la vie et au souffle, tout simplement.
Et justement, si on regarde votre discographie, bon, elle est partagée entre récital et concerto, mais il n'y a pas de musique de chant, il n'y a pas de leader avec un chanteur ou une chanteuse.
Ça viendra, mais c'est vrai que le piano est un. Bon, ça a été depuis 4 ans un grand amour et ça le reste. Et le répertoire est tellement immense que j'ai un peu du mal pour l'instant à me dire que je vais aller voir ailleurs, là où le piano n'est pas exactement au centre, même si, évidemment, il a toujours une place très importante dans la musique de chambre, dans les leaders, mais c'est vrai que je suis un peu accro au piano en tant qu'instrument soliste et en tant que, comme on dit, roi des instruments, et j'aime ça. Donc, mais plus tard, oui, ça, il n'y a pas de doute.
À 25 ans, vous avez encore un tout petit peu le temps.
Voilà, je ne sens pas encore d'urgence.
Alors, parmi vos hobbies, je l'ai dit tout à l'heure dans mon papier, vous êtes accro au shopping, aux films de science-fiction, à l'art moderne, et ce que vous écoutez parfois, c'est ceci. There's nothing I can do. Nothing I can say. You do what you want to. Go your own sweet way. You'll go your own sweet. Your own sweet way. You'll go your own sweet. Your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you. To love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet, your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, or what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. I say, you'll go your own sweet, your own sweet. Thank you. Alors, Lise de la Salle, je ne me suis pas trompé, c'est quelque chose que vous aimez bien?
Ah oui, là,
mais
on
pas
peut,
toute seule.
Pouvez,
alors, à vous de faire la désannonce. Hein.
Vous ne pouviez pas mieux tomber. Non, c'est assez bluffant. Bah, il y a une personne sur Terre qui comprendra ce que je vais dire et je vais laisser planer le mystère. Bon, en tout cas, c'était Your Own Sweet Way avec Mark Knopfler et des amis à lui pour un album tout en sensualité. Et...
Ah oui, non, il est merveilleux. Je le recommande. J'aurais pu choisir aussi Freddie Mercury. C'est drôle,
oui.
On en parlait en micro. Beaucoup de musiciens classiques adorent Freddie Mercury.
C'est...
Il
n'y
a pas
oui.
que Montserrat Caballé.
Mais je crois qu'il avait, quelque chose de tellement universel, génial, qu'on ne peut que l'aimer. Et peut-être que nous, les musiciens, on se reconnaît parce qu'il y a une énergie, il y a une structure aussi dans les pièces, il y a une organisation, c'est très... C'est très énergétique, en plus il y a un rythme de folie, donc c'est un petit peu ce que moi en tout cas j'aime, les mêmes qualités que je retrouve dans des symphonies de Beethoven ou dans des symphonies de Shostakovich, ce punch et cette volonté, et oui il nous entraîne, il peut pas nous laisser à côté, on est obligé d'aller avec lui, donc c'est assez génial comme musique.
Eh bien, ami breton qui a écouté donc Lise de la Salle avec l'Orchestre de Bretagne, le 20 à Rennes ou le 24 à Quimper, qui sait, il y aura peut-être en bis une transcription de Freddie Mercury, on verra, ou sinon ce sera plus tard à l'étranger. Allez, on va parler d'abord on va l'écouter, on va parler d'un certain Franz Liszt.
Thank you.
Tantchen, oui, c'est du Schubert, Liszt de la Salle, mais c'est du Liszt aussi, puisque c'est sa transcription. Et Liszt, c'est quelqu'un qui est au centre de tout votre répertoire, en tout cas, ce qui est enregistré. Il y a la musique russe et il y a Liszt.
Oui, c'est ça. En fait, pareil, c'est un compositeur que j'ai abordé très jeune, parce que c'est très formateur, évidemment, sur le point de vue, du point de vue technique. Donc, c'est une œuvre qu'on peut, enfin, ce sont des œuvres que l'on peut aborder très jeune pour se former. Donc, c'est une musique que j'ai côtoyée très tôt et j'ai grandi avec. J'ai appris à la découvrir et je suis tombée vraiment folle amoureuse de cette musique très jeune, parce que évidemment c'est la virtuosité, le panache, et c'est très agréable à regarder. Et quand on est jeune, ça fait rêver de voir les grands pianistes jouer ça et triompher et avoir les salles à leurs pieds, donc ça fait rêver. Et puis après on découvre le côté beaucoup plus sincère, enfin non pas que ce soit pas sincère, mais on découvre la ligne musicale,
oui,
plus intérieure, une profondeur très très intéressante et une ligne mélodique. Il y a des phrases d'une beauté dans la musique de Liszt, c'est incroyable. Donc on va plus vers l'émotion, vers la simplicité, et on découvre qu'en fait la virtuosité est au service de la musique et non pas juste une virtuosité gratuite et pour le spectacle. Donc c'est une musique qui m'attire et vers laquelle je reviens toujours, que ce soit en récital ou avec orchestre.
Alors bientôt les années de pèlerinage.
Peut-être.
Au moins une en tout cas. On verra. Allez, cachotière. Alors deuxième et dernier coup de fil de notre déjeuner dominical, Liszt de la Salle. Il est pour Didier Martin, donc le directeur artistique de Naïf. Et je lui ai demandé comment on se jetait à l'eau pour enregistrer un premier disque avec une jeune fille de 14 ans.
Tout ça s'est fait très naturellement. Puisque lorsque Monique Devaux en a parlé à l'époque à Hervé Boissière, qui dirigeait le label et dont j'étais l'adjoint, la rencontre s'est faite très naturellement, et le fait que Lise ait à cette époque 14 ans, finalement n'est presque pas entré en ligne, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés et tout ça s'est enchaîné très naturellement et surtout avec une solidité et une maturité qui nous impressionnait.
Et preuve que vous avez eu du flair, ça fait presque 10 ans maintenant que vous collaborez ensemble.
Ça fait 10 ans, ouais. On a fêté nos 10 ans de collaboration et 6 disques ensemble. Donc c'est une vraie... l'histoire de Lise est vraiment intimement liée à l'histoire de Naïve, qui ne fête que ses 15 ans cette année, donc on est plus jeune qu'elle.
Ouais, un tout petit peu. Alors 6 disques en 10 ans, elle n'a aujourd'hui que 24 ans, c'est pas facile non plus de construire ensemble une carrière discographique. Quand on a commencé si tôt, non ?
Non, comme je vous le disais, ça s'est fait très naturellement. Premier disque, Ravel Rachmaninov, qui est pour moi toujours un disque de chevet. Ensuite, il y a eu le challenge quand même du disque de concerto, où elle n'était pas beaucoup plus âgée. Alors là, on était complètement médusé et scotché devant sa solidité à nouveau. Et ça, elle était prête, elle maîtrisait la chose, mais avec grand naturel. Donc elle a passé cette étape du disque de concerto magnifiquement, et puis après ça s'est enchaîné très naturellement.
Alors on sait que certains pianistes sont assez tatillons sur leurs enregistrements, les conditions dans lesquelles ça se déroule. J'imagine qu'à 14 ans elle avait son idée de ce qu'elle voulait jouer, mais
je vous confirme qu'elle l'est.
Ah.
Elle est très tatillon sur la qualité du piano, la qualité du studio et aussi la qualité de l'équipe artistique. Elle a une grande fidélité vérifie tous les détails.
Bon, et le prochain bébé prévu ensemble ?
Alors, le prochain bébé est consacré à Schumann, autour des scènes d'enfants, plus la fantaisie. Et c'est un enregistrement qui se déroulera début 2014 en Allemagne. Et le disque sortira assez vite ensuite, dans le courant de l'année 14.
Et là, c'est le fruit de longues tractations ou c'est juste une évidence ?
Juste une évidence, parce que Schumann n'avait pas encore été abordé, par un film qu'on avait inséré dans un DVD qui célébrait justement nos 10 ans de chemin commun. Donc on ne l'avait pas encore enregistré au disque, donc il s'est imposé assez naturellement. Et ce thème de l'enfance nous a intéressés aussi. Thank you.
Voilà, retour à la case départ, liste de la salle, c'est-à-dire à votre premier enregistrement, voici 10 ans chez Naïf, disque de chevet, si l'on en croit Didier Martin. Donc nous écoutions La barque sur l'océan, extrait des Miroirs de Maurice Ravel. Alors si je regarde votre calendrier, bon, ben, il y aura beaucoup de Rachmaninov, hein, on en a parlé, d'abord avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne les 20 et 24, et puis ce grand projet avec Fabio Luisi à Zurich, avec déjà premier, deuxième et Rhapsody cette saison.
Oui, c'est ça, exactement.
Et on peut y aller, c'est pas si loin Zurich pour les Français, enfin ceux qui sont pas un peu limitrophes, 29 septembre donc pour la Rhapsody, 22 décembre pour le deuxième concerto et 6 juillet pour le premier. Et puis alors, toujours dans l'agenda, il y a des jolies choses, il y a une tournée aux États-Unis.
Oui, mais oui, ça j'ai...
En octobre.
Comme vous le disiez en début d'émission, j'ai eu la chance d'y aller très jeune la première fois à 15 ans, de gagner un concours qui m'a ouvert pas mal de portes. Et
malgré le froid polaire, oui.
Malgré les moins 22 degrés, je me souviens.
Moins 22, ah oui, pas dans la salle
oui,
quand
oui,
même.
C'était quand même assez froid. Et depuis, bah, j'y vais entre une et deux fois par année. Donc ça va faire 10 ans là aussi. Et c'est un pays qui est absolument génial pour la musique et pour plein de choses, mais... Disons que les orchestres aiment travailler, sont attentifs et aiment jouer. Ça, c'est une sensation qu'on...
Vous dites que ce n'est pas le cas en France ?
Non, je vous voyais venir. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais disons que leur tempérament plus démonstratif...
Je préfère.
et se voit plus et se développe plus dans la musique, et c'est très agréable. Et j'aime aller jouer là-bas, donc ça, c'est une chance. Et puis... Ça permet d'avoir un vrai contraste de voyager autant, parce que quand vous allez au Japon, c'est tout à fait le contraire, et pourtant ils aiment autant la musique, enfin, sans faire de classement, mais je crois que c'est ce qui est très agréable quand on a la chance de faire un petit peu le tour du monde, c'est qu'à travers la réaction du public et à travers comment les orchestres et les gens vivent la musique, on a une petite, un petit goût du pays et de la mentalité et de la culture, donc c'est passionnant.
Alors, pour nos amis les riches ou pour les Français d'étrangers, récital le 12 octobre à New York et puis tournée avec l'orchestre de Philadelphie entre 17 et 19 octobre. Au programme, le deuxième de liste, il y a encore liste.
Encore
le chef, c'est qui d'ailleurs ?
Raphaël de Burgos, Frubeck de Burgos.
Un jeune homme.
Oui, on a eu la chance de jouer ensemble à Lucerne, concerto de Ravel, donc ça va être un plaisir de le retrouver.
Et Fabio Luisi, comment vous l'avez rencontré ? Comment cette amitié est née ?
Alors
cette
ça, c'est une rencontre assez exceptionnelle et extraordinaire pour moi, ça c'est sûr, parce que c'est un chef d'orchestre que je connaissais, et qui, de réputation évidemment, et que j'avais entendu, et qui lui a fait la démarche de vouloir jouer avec moi. C'est lui qui a demandé, parce qu'il avait entendu mes disques, et par rencontre avec un critique, je crois, qui connaissait mon agent.
Ah, il sert à quelque chose, les critiques, c'est bien.
Donc le lien s'est fait, et on a eu une vraie rencontre musicale et humaine. Forcément, ça va ensemble, en tout cas pour moi, c'est indissociable. Et depuis, il me soutient énormément, que ce soit en Europe, ou quand il était directeur du Wiener Symphoniker. Je mélange toujours. Il m'a invité à faire une semaine là-bas. Maintenant, bon, il a pris la direction, un poste très important. Je me mélange toujours dans les titres officiels au Metropolitan Opera de New York. Donc, il a dû arrêter Vienne, mais
il aime les voix aussi.
Pardon ?
Il aime les voix comme vous.
Voilà, il aime la voix énormément. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'entend si bien. Mais il m'a fait venir avec lui en tournée au Japon. Il a fait ses débuts il y a 3-4 ans maintenant. De cela au Boston Symphony, il m'a demandé en tant que soliste. Il a fait venir justement son orchestre de Vienne à New York, à Avery Fisher Hall, et il a demandé à ce que je sois la soliste également. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup et qui continue à faire énormément pour moi. Je le retrouve d'ailleurs en Italie aussi au mois d'octobre ou novembre, là, très, très prochainement, en plus de Zurich. Donc on a vraiment une collaboration très très proche et un amour de jouer ensemble très fort, parce que C'est ce qu'on se disait récemment, enfin une des dernières fois qu'on a joué ensemble, c'est qu'on n'a quasiment pas besoin de parler pendant les répétitions. Tout c'est semble évident, évident et spontané, et surtout on a la même vision de la musique et le même amour de cette musique. Donc c'est un bonheur de jouer avec lui.
Même si vous êtes tatillonne sur le piano, on n'en parlera pas. Non, c'est pas vrai.
Pas gentil.
C'est Didier Martin qui a dit ça. Exigeante, pas tatillonne, c'est pas la même chose. Donc je rappelle en tout cas, en France, parce qu'il y a pas peu de dates en France, hein. Il y aura un récital à Toulon le 20 novembre, et puis ces deux concerts donc, avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne, les 20 et 24. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dates, dommage. Enfin, il y en a eu, puis il y en aura.
Voilà, c'est
hein,
bien
on va
résumé.
Dire comme ça.
Voilà.
Justement, on va refermer notre déjeuner à l'Élysée de la Salle, non pas avec un disque, mais un live, c'était avec l'Orchestre National de France. Il y a un autre chef que vous aimez bien, qui est James Condon.
Oui, pareil, on a... Alors lui, c'est aussi très, très touchant pour moi de jouer avec lui, parce que je suis allée le voir quand ma mère chantait dans les chœurs de l'Orchestre de Paris. Donc, j'avais même assisté à une répétition, je crois. Donc, ça remonte à un souvenir d'enfance. Et puis, c'est quelqu'un, humainement, là aussi, avec qui j'ai un merveilleux contact et qui est quelqu'un qui a fait énormément pour la musique, qui donne toujours beaucoup, et à chaque fois qu'on a l'occasion de se croiser à Paris ou à Los Angeles ou ailleurs dans ce monde, on passe un merveilleux moment ensemble et on joue dès que possible, évidemment, avec plaisir, toujours partagé.
Et encore un qui aime le piano et les voix.
Thank you.
Le mouvement lors du premier concerto de Serge Prokofiev, c'était un concert enregistré au Théâtre des Champs-Élysées, c'était en 98, non c'était en 2008, pardon. Je me mélange avec les dates, vous êtes trop jeune, Lise de la salle. Donc 2008 avec l'Orchestre National de France, sous la direction de James Condon. Merci encore d'avoir partagé notre déjeuner, Lise de la salle. Bon séjour à Rennes, faites attention à la rue de la Soif, il paraît qu'elle est très dangereuse. Enfin, on n'en dira pas plus. Voilà, on referme cette émission préparée par Xavier Carrère, réalisée par Jean-Charles Lieval, avec aujourd'hui Jason Taous, que je remercie pour ses kiwis. La semaine prochaine, un autre pianiste à notre table, Abdelrahman El Bacha, à propos de sa deuxième intégrale consacrée aux sonates de Beethoven, qui vient de sortir.
Nice beaver.
Thank you.